Bonjour et bienvenue à bord de ma mobylette cosmique sur les routes de la musique. Aujourd'hui, nous allons tâcher de corriger une faute de traduction dans un des textes les plus sacrés du monde. Une faute de traduction qui dure depuis 2200 ans. Cette correction, émise par une croyante, est admise aujourd'hui par tous les érudits du monde. Sans remettre en question la foi des gens concernés, elle donne au contraire un éclairage profond et signe la paix définitive dans ce qu'on pourrait qualifier de guerre des sexes. Oui, nous allons voir la vraie histoire de la naissance d'Ève et comment la faute de frappe cosmique, comment l'erreur de traduction nous a tenus loin de ce à quoi nous sommes peut-être enfin prêts, nos épousailles cosmiques avec le féminin de l'être. Waouh ! Et quant à la leçon de musique, elle portera sur les différentes interprétations d'un même texte musical. Accrochez-vous à vos fauteuils, c'est parti !
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
You never gonna be.
Nous avons vu la semaine dernière, à travers Annick de Souzenel, que l'on pourrait qualifier de sage-femme à l'érudition spirituelle. Nous avons vu, à travers cette chrétienne orthodoxe ayant étudié l'hébreu, que la Bible est un texte crypté, soumis à plusieurs niveaux de lecture. Comme elle a été écrite en plusieurs langues, l'étude de ces différentes traductions est capitale, tant chacune d'entre elles porte un éclairage différent. L'Ancien Testament, la Bible hébraïque, a été traduite en grec au IIe siècle avant Jésus-Christ. Nous avons vu tout au long des épisodes précédents ce que l'Ancien Testament doit à l'Égypte et mieux encore ce que le monothéisme de Moïse doit à Akhénaton. Est-ce que l'exode de la Bible raconte la fuite des prêtres égyptiens restés fidèles à Akhénaton, prêtres que l'on appelait en égyptien Yahoud, prêtres qui seraient restés fidèles au pharaon hérétique prônant Aton comme seul et unique Dieu, Aton devenant Adon, Adonai dans la religion juive? Nous avons vu, avant l'épisode akhénatonien, comment la confession négative du livre des morts fait dire au défunt, au moment de la pesée de son âme, par la déesse de la justice Maat, « Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas convoité la femme de mon voisin. » Comment cette négation de faute dans la religion égyptienne s'est transformée en commandement dans la religion juive dont nous connaissons les 10 de Moïse, mais qui dans la tradition rabbinique sont au nombre de 613 divisés en 248 commandements positifs, faits, et 365 commandements négatifs, ne fait pas. Il est indéniable qu'à la source du monothéisme moïsiaque, il y a la spiritualité de l'Égypte, mais également celle de Babylone. Les Hébreux étaient des nomades qui circulaient entre ces deux pôles de civilisation avancée, entre ces deux empires intenses et rivaux. Ils firent une forme de synthèse de la sagesse de ces deux mondes. S'ils viennent d'Égypte, c'est à Babylone que les premières rédactions du texte biblique ont eu lieu aux environs du 7e siècle avant Jésus-Christ. Le mythe moïsiaque est emprunté à un mythe mésopotamien, la légende de Gilgamesh. Gilgamesh, fils de roi, abandonné dans un couffin d'osier au fil d'une rivière parce que son père a rêvé que son fils serait une menace pour lui. Gilgamesh, recueilli par un berger, puis recouvrant par ses actions héroïques sa royauté.
Question : comment se forme un héros ? Gilgamesh répond
« À force d'initiative et de courage. »
Gilgamesh avait reçu à sa naissance les dons les plus rares. On disait d'ailleurs couramment qu'il était homme pour un tiers et dieu pour les deux autres tiers. Et il avait pour patron le dieu soleil, qui n'était pas seulement le dieu de l'astre du jour, mais aussi le dieu de la justice.
Question. Comment se forment les nuages ?
Quand le soleil réchauffe l'eau des mers, des rivières et des lacs, une partie de l'eau s'évapore sous la forme de millions de petites gouttelettes invisibles qui sont si légères qu'elles montent vers le ciel. Elles s'agglutinent et forment des gouttes un peu plus grosses qui sont alors visibles sous la forme de ce que l'on appelle les nuages.
Question : y a-t-il un lien entre les nuages et Gilgamesh ?
Ils sont tous les deux amis avec Dieu Soleil.
Gilgamesh décida un jour de partir en guerre contre un pays lointain qu'on appelait la montagne des cèdres et que défendait un géant à la voix terrible. Gilgamesh avait trouvé là une occasion de se faire, comme il dit lui-même, un nom. Il s'en va donc. En compagnie de son ami inséparable Enkidu, ils traversent tous les deux le désert et parviennent non sans peine au pied de la montagne, dont ils admirent les arbres, mais qui leur cause aussi, si braves qu'ils soient, une grande frayeur. Cependant, le dieu soleil, leur protecteur, vient à leur aide. Voici qu'en effet un ouragan, le vent du nord, un souffle glacial, en tout 8 vents, se lèvent de l'horizon pour assaillir le géant des cèdres.
Il est toujours question de pluie dans les mythes ou quoi ?
C'est une pub pour les Kawais, en fait, les mythes.
Avec le Kawais Gilgamesh, vous viendrez à bout de tous les géants.
Oui, le mythe du déluge est aussi un mythe mésopotamien. Otto Rank, à la demande de Freud, compila dans son livre « Le mythe de la naissance du héros » tous les récits similaires fondateurs de civilisation. Les rédacteurs de la Bible sont inspirés par les deux civilisations brillantes et rivales entre lesquelles ils évoluent, les Égyptiens et les Assyriens. Arcade Fire, Neon Bible. Poursuivons l'étude du livre le plus vendu au monde, la Bible. Son histoire est passionnante, que l'on soit croyant ou pas. Nous voilà maintenant sur les traces d'Alexandre le Grand. En 323 avant Jésus-Christ, il s'empare de l'Égypte qui va passer sous tutelle grecque jusqu'en 50 avant Jésus-Christ, jusqu'à la domination romaine. Le premier roi grec à s'installer sur le trône de l'Égypte est Ptolémée Ier, général et ami d'Alexandre le Grand. Ptolémée institue comme capitale Alexandrie dont il est le grand bâtisseur. Vers 297 avant Jésus-Christ, il débute la construction du phare d'Alexandrie qu'il fait relier à la terre. À partir de 288, il fait ériger la bibliothèque d'Alexandrie, une des premières de l'histoire, le plus grand centre de savoir du monde et une académie où se retrouvent les poètes, scientifiques et artistes. Il fait construire le majestueux tombeau d'Alexandre. C'est à sa demande que le prêtre égyptien Manéthon rédige en grec une histoire de l'Égypte qui va recenser le nom des pharaons de toutes les dynasties. Et cette histoire va faire autorité jusqu'à aujourd'hui. Tous les égyptologues vont s'inspirer de l'histoire de Manéthon pour retracer les dynasties des pharaons sur 3 millénaires. Ptolémée met enfin en place une administration efficace qui va combiner le rationalisme grec et la tradition égyptienne. Enfin, il fait restituer au clergé égyptien les statues des dieux, le mobilier et les livres précédemment volés dans les temples par Xerxès Ier, le roi des Perses, et récupérés depuis la conquête macédonienne.
Le livre le plus vendu au monde, c'est la Bible. Et la plus célèbre bibliothèque de l'histoire, c'est celle d'Alexandrie.
Les conditions d'accès à la bibliothèque sont identiques pour tout le monde, que vous habitiez la commune ou non.
Nous nous installons dans l'antre de la bibliothèque.
Le projet était en un sens assez nouveau parce qu'il consistait à réunir à Alexandrie toute la production de langue grecque.
Quand je suis devenu ministre de la Culture, j'ai pensé que mon devoir était d'ouvrir aussi grand que possible les yeux et les oreilles.
Oui, Jacques Long, Ptolémée, mais racontez-nous, comment avez-vous fait ?
Tout navire
faisant escale à Alexandrie.
À Alexandrie, et qui comportait dans sa cargaison des livres, devait déposer les livres à Alexandrie. Ils étaient copiés, ils lui étaient rendus, donc sous cette forme.
Il y a la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le dernier Marc Lévy, tous les prix Goncourt et tous les prix Madame Le Figaro.
4 sections, adultes, jeunesse, bande dessinée et salle de lecture et de recherche. À noter que le Wi-Fi est gratuit.
Ça, peut-être pas.
En tout cas, c'est un puits de savoir et de mémoire.
Nous avons fait pour la littérature, nous avons fait pour le patrimoine, nous avons fait pour l'éducation en profondeur.
La partie de conservation, elle part de l'idée que tout ce qui s'est fait dans la Grèce classique, et notamment à Athènes, est le trésor commun. Un trésor qu'il faut mettre à la disposition de tout le monde, parce que c'est à partir de ce trésor qu'on peut conserver l'unité d'une culture et l'unité d'une civilisation.
Nota bene, la bibliothèque d'Alexandrie a été détruite maintenant, mais les civilisations continuent de se construire encore et encore, et les bibliothèques les suivent.
C'est-à-dire que ce n'est pas une bibliothèque morte, elle est vivante en même temps, n'est-ce pas ? Il ne faut pas l'oublier.
Non, ne l'oublions pas.
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter le blog de la bibliothèque.
Ptolémée, roi grec, est fasciné par les coutumes égyptiennes. Il lance un programme de restauration et de construction de temples de tradition égyptienne. Il instaure enfin le culte de Sarapis, une divinité qui va rassembler les traits de Zeus, Hadès, Asclépios, qui sont des dieux grecs, et d'Apis et Osiris, qui sont des dieux égyptiens. Il fait donc le choix d'un culte égyptien pouvant être adopté par les gréco-macédoniens. Il est un roi éclairé, respectueux des coutumes et rites des Égyptiens, comme le sont en général tous les polythéistes. Puisque pour eux, les dieux cosmiques sont les mêmes partout, simplement, ils ont des noms différents. À sa mort, son fils Ptolémée II prend sa succession et il prend, lui, le titre de pharaon. La religion égyptienne est tellement puissante dans ses rites, ses manifestations, son architecture, que les Grecs sont séduits. Encore une fois, il n'a pas besoin de se convertir d'une quelconque manière, puisque le polythéisme porte en lui un universalisme cosmique qui n'attribue pas une religion à une ethnie, mais au cosmos entier. Ptolémée II va installer une nouvelle et dernière dynastie de pharaons sur le trône d'Égypte, dont Cléopâtre sera une des dernières descendantes.
I was Cleopatra. I was young and an actress. When you knelt by my mattress and asked for my hand, but I was sad. You asked it. As I laid in a black dress with my father in a casket, I had no plans. Yeah. And I left the footprints, the mud stained on the carpet, and harder like my heart did when you left town. But I must admit it, I would marry you in an instant. Damn your wife, I'd be your mistress just to have you around. But I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, die I'll be on time. While the church discouraged any lust that burned within me, yes, my flesh, it was my currency, but I held true. So I drive the taxi, and the traffic distracts me from the strangers in my backseat that remind me of you. But I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, when I die alone, when I die, I'll be on time. only gifts from my Lord were birth and death, divorce. But I've read this script and the costume fits, so I play my part. I was clean with my truck, I was taller than the rafters, but that's all.
C'était The Lumineers, Cléopatra.
André Manoukian, Les routes de la musique, sur France Inter.
Très vite après la fondation d'Alexandrie par Alexandre le Grand, en -331, la diaspora juive s'y développe fortement, en particulier autour du Palais Royal, à tel point que 2 des 5 quartiers de la cité sont réservés aux descendants d'Abraham. Les Juifs continuent à y parler la langue hébraïque et à étudier les textes de l'Ancien Testament. Le culte dans les synagogues est public et les Grecs se montrent curieux des « sagesses barbares ». Quelques-uns gagnent le statut reconnu de « craignant Dieu », en cela qu'ils suivent les préceptes du judaïsme, au moins les 7 lois des fils de Noé, sans aller jusqu'à une conversion qui implique la circoncision. Le souverain grec, soucieux de connaître les règles des divers peuples qui lui sont assujettis, ordonne la traduction en grec de tous les livres israélites, textes sacrés et narrations profanes. D'autre part, parmi les Juifs installés en Égypte, beaucoup ne connaissaient plus l'hébreu. Seul le grec pouvait être une langue sacrée à côté de l'hébreu, tant était grand le prestige des philosophies et sciences grecques. Aussi, les savants juifs acceptèrent, non sans mal, de traduire leurs textes sacrés, dont la Bible. On raconte que 5 anciens traduisirent la Torah en grec pour le roi Ptolémée, et ce jour fut aussi grave pour Israël que le jour du veau d'or, car la Torah ne peut être traduite convenablement. On raconte également que le roi Ptolémée rassembla 72 anciens, il les plaça dans 72 maisons sans leur révéler l'objet de ce rassemblement. Il vint voir chacun et leur dit « Écrivez-moi la Torah de Moïse, votre maître. » L'omniprésent inspira chacun et ils traduisirent de la même manière. Ça, c'est la légende. Le nombre de 72 traducteurs, 6 de chacune des 12 tribus d'Israël, va donner le titre de 70 aux différentes traductions qui vont donner un seul et même texte, simultanément et de façon quasi miraculeuse, bien sûr. Seulement, voilà, cette version grecque, si on la compare aux versions hébraïques et araméennes, est bourrée de fautes, nous dit Annick de Souzenel.
Allô ?
Vous ne voulez pas plutôt l'avis de ma grand-mère sur la Bible ?
Grand-mère, raconte-nous une histoire.
Dans le temps, la bonne sœur me faisait lire, pas la Bible, c'était l'histoire sainte. Et l'histoire sainte, c'est pas le Nouveau Testament, les règles de religion. L'histoire sainte, c'est l'Ancien Testament où il parle, ça s'appelle d'ailleurs la plus belle histoire de tous les temps. Et c'était raconté sous forme de parabole des règles de morale primaires. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour bien faire ou ne pas faire pour pas mal faire, et comment c'était, que ça devrait être, et que les puissants devaient être punis, on devait aider les plus faibles, etc. C'était des très belles histoires, des très beaux contes, qui rejoint les contes de Perrault, qui rejoint toutes les fables de La Fontaine. Là, ça laisse la liberté quand t'as un conte. Ça te laisse ouvert l'esprit de le broder à ta taille.
Grand-mère brode des contes au coin de la cheminée. Elle se souvient, elle se rappelle, ses souvenirs viennent des pages.
J'adorais non pas la Bible, mais l'histoire sainte. Mais après, vraiment, il est revenu le Nouveau Testament, où ils ont mis des règles et des obligations et des trucs pour que les puissants vous fassent rabaisser la tête à nouveau. Et comme je n'ai jamais aimé le Nouveau Testament, je n'ai jamais baissé la tête. Non.
C'était la fabuleuse Cass McCombs qui nous chantait « When the Bible was wrote ». On croyait connaître l'histoire. Dieu crée Ève de la côte d'Adam parce que Adam s'ennuyait. Ben là, il ne va pas regretter Adam, hein, parce qu'Ève, en 2 secondes, elle met tout de suite le dawa dans le paradis. Une seule chose à ne pas faire, dit Dieu. Ne mangez pas du fruit de la connaissance. Ben ça, fallait pas le dire. L'interdit posé sur l'objet, la pomme, va lui donner une valeur inestimable à cette pomme. Alors le serpent va dire à Ève, vas-y, qu'est-ce que tu risques? Et Ève, elle dit à Adam, vas-y, qu'est-ce que tu risques? Et les voilà tous les deux, SDF, jetés hors du paradis et condamnés à souffrir, enfin les femmes surtout, une fois par mois et pendant leur enfantement. Bon, ça, c'est la bande-annonce avec du climax, du chaos et du drama. Examinons les faits à la lumière des mots. Dieu crée Adam, mais Adam représente toute l'humanité dans sa double polarité masculine et féminine.
D'où venons-nous ?
L'aventure commence maintenant. Bienvenue dans Adam Recherché.
Adam et Ève étaient nos ancêtres à tous, un mâle et une femelle, une bite et un vagin, dans un jardin idyllique.
Coupés du monde et en tête à tête, ils vont pouvoir se découvrir au beau milieu de ce véritable jardin d'Éden.
La terre était un jardin comme les jardins de Babylone, où poussaient des arbres appétissants avec des fruits délicieux. C'était le paradis.
Jusqu'ici, tout va bien.
Événement. Adam recherche Ève.
Au milieu de ce grand jardin, il y avait deux arbres, pas comme les autres. C'était l'arbre du désir et de l'aventure.
La tentation est là, à l'ombre des arbres.
Il est dit, tu ne mangeras pas des fruits de cet arbre ou tu en mourras.
Il y a toujours un hic quand il s'agit de parler de l'histoire de l'homme.
Il faut bien réussir à expliquer pourquoi on ne vit pas encore dans un paradis et pourquoi qu'on n'est pas tous des gentils gens.
Qu'elles se tiennent prêtes, parce que là... Il y a Adam qui va arriver.
L'envie est trop forte. Ève mange un fruit. Adam aussi en voudrait bien. Elle lui donne la moitié. Alors une voix se fait entendre dans le jardin.
Ici la voix.
Dieu appelle Adam. Adam dénonce la femme. C'est elle qui m'a donné du fruit.
Et la punition pour les humains tombe.
À la femme, Dieu dit, « Je multiplierai les douleurs de tes grossesses et l'homme sera ton maître. » À l'homme, Dieu dit, tu travailleras pour manger. La terre te donnera des épines et des chardons.
Évidemment, c'est nous, les vagins, qui en prennent le plus sur le dos.
Tout le jardin alors se transforme et devient inquiétant. Il faut partir. Ils vont devoir travailler, mettre au monde des enfants, vivre les uns parmi les autres, courir le monde, s'aimer et se haïr. De génération. En génération.
C'est qui a écrit cette histoire naze ? Freud ? Le père de Freud ?
Ève représente l'intériorité de l'homme, nous dit Annick de Souzenel. Lorsque Dieu va créer Ève, ça veut dire qu'Adam accède enfin à la conscience et qu'il va se connecter avec son intériorité. Adam, l'homme, est ainsi la seule créature du monde animal à se rendre compte qu'il possède une vie intérieure. La création d'Ève, c'est en fait la sortie au jour du pôle féminin de l'humanité entière. C'est la révélation de notre inconscient. C'est l'accès à cette matrice créatrice infinie qui est en nous. L'accomplissement d'un homme ou d'une femme ne peut se faire sans cette révélation. Le mot « mâle » en hébreu, « zaror », signifie aussi « se souvenir ». Le mot « femelle », « keva » en hébreu, signifie un trou, un abîme immense, les cieux voilés qui sont à l'intérieur de nous. À chacun de nous de faire œuvre mâle en se souvenant pour pénétrer le féminin de notre être, c'est-à-dire aller à l'intérieur de nous, enlever les voiles, épouser ce féminin de nos profondeurs, de façon à devenir un être dont la conscience va s'élever de plus en plus.
There's a hole in my heart I've been hiding. I've been strong for so long that I'm blind. Is there a place I can go where the lonely river flows, where fear ends and faith begins? Hallelujah, hallelujah. Sins. Won't you give me a sign before I lose my mind? Oh, hallelujah, let me in. Every step makes me think that I'm closer, but
but somehow I just never arrive. When all hope disappears, please protect me from my tears.
Alicia Keys nous chantait Alléluia.
Les routes de la musique. André Manoukian sur France Inter.
L'étude des mots est capitale pour bien saisir le sens symbolique, universel du message de sagesse que contient la Bible. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut ressentir le texte dans son être comme un message organique. La tradition juive, nous dit Annick de Souzenel, n'est pas seulement discursive. C'est aussi une tradition corporelle qui est chantée et dansée. Et elle nous transmet cette expérience étrange qu'il a saisie lorsqu'elle fit une première lecture de l'Ancien Testament en hébreu. Elle fut prise, nous dit-elle, par une sorte de danse. Elle a soudain le sentiment que chaque lettre est une personne vivante et que les lettres forment entre elles, non pas des mots, mais des corps de ballet. Ça ne vous rappelle rien ? Mais si. Les hiéroglyphes, bien sûr, dont le caractère était magique pour les Égyptiens. Les hiéroglyphes qui sont la retranscription des chants sacrés des prêtres devant guider l'esprit des morts dans l'au-delà. Les hiéroglyphes, paroles chantées, donc dansées aussi, paroles transposées sur des signes magiques gravés dans la pierre des tombeaux afin qu'elles veillent pour l'éternité sur le défunt. Écriture sacrée et magique à tel point que les hommes buvaient l'eau qu'ils faisaient couler dessus pour ingérer le pouvoir magique de cet alphabet.
Oh, regardez, les textes prennent corps.
L'écriture déborde les fonctions rationnelles qu'on lui reconnaît.
Les textes vivent et les pages du livre deviennent des portes ouvertes.
Je dirais qu'il y a une vérité occultée de l'écriture qui est sa vérité gestuelle, sa vérité corporelle. Et ici, il faudrait explorer à fond les gestes du corps dans l'écriture.
Les lettres dansent, ils prennent Annick de Souzenel par la main.
Il s'agit d'aller dans l'intériorité des choses. C'est un accouchement auquel ces textes nous obligent, un accouchement de nous-mêmes. Parce qu'en même temps qu'on scrute et qu'on pénètre ces textes, ils nous obligent à vivre le message qu'ils nous délivrent.
Et nous plongeons dans les textes, que dis-je, dans la lettre.
Retrouver une sorte d'état naturel de la lettre.
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, D, Q, R, S,
L, O, L. C'est le lien.
Et toutes les lettres de l'alphabet se tiennent par la main et la ronde est infinie. Danse, danse.
La lettre danse, se pose antérieurement au précaire du mot, qui se défait de combinaison en combinaison. Seule, elle cherche à se développer non vers ses sœurs, le long de la phrase, mais vers la métaphore sans fin de sa forme individuelle. Voix proprement poétique qui ne mène pas au discours, au logos, à la ratio, mais au symbole infini. Tel est le pouvoir de l'alphabet.
Bah, c'est mieux que d'être roi ou président de la République, ça.
La langue hébraïque conserve cet aspect sacré, incantatoire, musical et dansé. Mais cette danse, ce rapport organique à l'écriture, existe dans toutes les traditions. Dans le Tao, ensemble de textes philosophiques compilant la sagesse chinoise. Dans les Upanishads, ensemble de textes philosophiques compilant la sagesse hindoue. Ce qui distingue la langue hébraïque, c'est qu'elle est particulièrement polysémique. C'est-à-dire que les mots ont plusieurs sens, très différents parfois. Sans compter que l'absence de voyelles permet, en inversant quelques consonnes, de rapprocher des racines entre elles. Pour ce qui est d'un même mot et de sens différents, par exemple, le mot « darash » en hébreu signifie « scruter ». Scruter un texte pour en tirer tout le sens. Mais le mot signifie également « exiger ». Le texte délivre un message et il exige quoi ? Qu'on le vive. Mais qu'est-ce que ça veut dire « vivre un texte » ?
Unreroute the rivers, let the damned water beep. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Head and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. Some people down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit.
Gregory Porter qui nous chantait Liquid Spirit.
André, Est-ce qu'on peut faire de la musique sans partition?
Ah, Ilsa, ça c'est une belle question. En fait, c'est à partir du 19e siècle seulement qu'on a cessé d'apprendre l'improvisation dans les conservatoires. Mais auparavant, tous les compositeurs dits classiques improvisaient. Évidemment, Bach était le premier jazzman, parce que c'est quoi son œuvre? C'est un thème suivi de variations. Beethoven improvisait quand il faisait un concert de piano. 80% de ce qu'il jouait, c'était de l'impro. Chopin était obligé de payer quelqu'un à côté de lui pour qu'il note ce qu'il faisait, parce que sinon, il ne se rappelait plus. Et au 19e siècle, tout d'un coup, on a dit stop, on arrête l'improvisation, et maintenant, le musicien est simplement au service du compositeur. Le musicien n'est plus qu'un simple exécutant. Et on a cessé d'apprendre l'improvisation, on a juste gardé des classes d'improvisation à l'orgue. Pourquoi ? Parce que l'organiste jouant à la messe, si elle dure des heures et des heures et qu'elle dépasse et qu'il n'a plus de partition, ben il est obligé d'improviser. La musique, elle n'aime pas qu'on l'enferme. Et elle s'est libérée par le jazz. Donc, moi, tout petit, j'étais fasciné quand je voyais des jazzmen qui jouaient avec devant eux juste un ticket de métro avec écrit quelques lettres comme ça, C, F, G, et ils pouvaient jouer pendant des heures et il aurait fallu un véritable bottin pour retranscrire tout ce qu'ils jouaient. Eh bien, ça s'appelle la science de l'improvisation. Comment ça fonctionne? On va reprendre nos accords. Alors, pour improviser, il y a des règles. Je dois connaître toutes mes gammes. C'est comme quand on veut faire du ski hors piste, il faut savoir avant slalomer entre les piquets. Alors nos piquets à nous, ils sont quoi? Eh ben, ils sont délimités par notre gamme de Do majeur, toujours. Hein. La gamme que je vais monter en accord. Ça veut dire que si à ma main gauche, je joue ces accords en montant, et si de ma main droite, je joue simplement sur toutes les notes blanches, voilà, je ne fais pas de faute. Je suis dans la tonalité, ma main droite s'exprime, ma main gauche l'accompagne. Ça peut même être d'une manière aléatoire avec les accords. Voilà, simplement, il faut que je structure cette improvisation pour pas que le discours semble décousu. Alors, on va reprendre un petit peu, on va repartir sur Bach, par exemple. Quand il joue un motif... Ça, c'est ce qu'on apprend enfant. Ça, c'est une des premières inventions de Bach. Comment on apprend la musique chez nous? Par la lecture. On emmerde les gamins avec le solfège et ça, c'est un crime. Bref, on apprend à lire. On apprend à lire la parole de quelqu'un d'autre, mais l'idéal, ça serait qu'on apprenne aux gamins à s'exprimer. Alors, pour ça, on va déconstruire. Je vais prendre cette première invention de Jean-Sébastien Bach. Et je vais déduire à partir de cette mélodie l'accord, l'harmonie. Do, ré, mi, fa, ré, mi, do, sol. Il y a des chances que je sois en do majeur. Donc si je fais un accord de do majeur, et puis ensuite j'entends bien que je passe en sol. La preuve? Oui. Ah donc, les premières mesures de cette invention de Bach me donnent deux accords, Do et puis Sol. Je fais un Do. Alors maintenant, j'extrapole. Je ne suis plus dans la partition de Bach, mais j'analyse ce qu'il fait. Là, il est en Do majeur. Si je veux, je peux lui répondre, pourvu que je reste en Do. Là, je passe en sol. Et puis maintenant, j'ai qu'à m'exprimer en sol comme j'ai envie. Et Et là, je me mets à dialoguer avec Jean-Sébastien Bach. Eh bien, c'est ce qu'ils faisaient tous. Ils dialoguaient entre eux, les musiciens. Mozart écrivait à Haydn en lui disant « Regarde, j'ai fait un thème ». Et Haydn lui répondait « Regarde ce que j'en fais de ton thème ». Et ensuite, Mozart répondait « Regarde ce que je fais du thème que t'as fait de mon thème ». Et ainsi, c'était un dialogue incessant de pur jazzman par courrier interposé. Alors, reconnectez-vous avec votre création et laissez tomber les partitions pour une fois. Mais pour ça, il faut ouvrir les oreilles. Donc vous prenez vos partitions, vous essayez de déduire les accords qui sont et vous répondez carrément à John Sébastien. Allez-y, c'est facile.
There was really a beginning and there will be an end. Yeah. There was really a beginning, and there will be an end. So speak up to Jesus, and he shall live in you. Yeah, as you know, bring in the Bible, and I shall see the truth. There was really a beginning, and there will be an end. Our word. And he shall live in you.
And he shall live in you. And he shall live in you.
Hey, if you don't
read the Bible, 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 read the Bible. Shall live in you. Yeah, there was really a beginning, and there will be an end. Yeah, there was really a beginning, and there will be an end.
C'était Rob qui nous chantait « Read the Bible ». Voilà, ainsi s'achève cette émission. Cette semaine, c'était carrément une super production biblique. Pas moins de 3 réalisateurs. Fanny Bouillon, Sonny Leglen, Alexandre Fougeron. À la voix du cosmos, Elsa Denac. L'enregistrement était assuré par Gaël Brauzek et la programmation par Muriel Pérez. À la semaine prochaine.